RCF.
Sur RCF, l'heure du 18-19 en région, et nous retrouvons Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonsoir, et c'est du direct, c'est le magazine régional de 18h10 à 19h avec RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Nous ne sommes pas seuls en studio, Luca Mastrolio, notre stagiaire à la rédaction, nous accompagne. Bonsoir Luca.
Bonsoir Alexis, bonsoir Jean-Pierre.
Mais bonsoir Luca. Le stage se passe bien, j'ai l'impression.
Ah bah super, moi j'adore.
Là, il était un petit peu dans le rush pour nous préparer l'actualité du jour. Vous allez nous emmener du côté de Charleville-Mézières dans les Ardennes.
Exactement, oui, c'est ça.
Pour nous parler musique avec le festival Cabaret Vert. Les Ardennes, nous, on est bienvenus. On y était hier soir pour une émission spéciale depuis le Rotellois avec nos amis du Sud-Ardennes de Rotel de Vouziers. Si jamais vous avez manqué cette rencontre avec les différents acteurs, rendez-vous sur le site rcf.fr, rubrique réécoute. Vous sélectionnez votre radio préférée. Ça peut être RCF Cœur de Champagne, ça peut être RCF Reims Ardennes. Et vous cherchez le magazine régional et vous pouvez revivre la soirée d'hier soir. Mais on est bien avec vous ce mercredi avec quelques nouvelles. D'ailleurs, Jean-Pierre, on en a beaucoup parlé lundi, mais c'est vrai que hier, on était en émission spéciale et on n'a pas forcément eu la possibilité de le mentionner, mais pour les auditeurs qui auraient loupé cette information, oui, il y a eu de sacrées nouvelles pour le diocèse de Reims et des Ardennes.
Vous faites bien de le mentionner Alexis, parce que nous on pense que parce qu'on l'a diffusé une fois, deux fois, trois fois, tout le monde est au courant. Eh bien non, en effet, on a une excellente nouvelle qui nous a été donnée lundi à midi par Rome, la nomination d'un évêque auxiliaire, Mgr Étienne Véteux, auprès de Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Un coup d'œil quand même sur le programme de cette soirée. On parlera musique avec le programme des flâneries musicales de la journée de demain. Ça sera l'occasion d'évoquer les traversées baroques avec leur directeur Étienne Meilleur, avec un concert exceptionnel à la chapelle Saint-Joseph. Le rendez-vous, c'est demain jeudi à partir de 20h.
Et ce seront des musiques d'Amérique latine, baroque d'Amérique latine. Donc ça va être très très joyeux.
On parlera également commerce, puisque vous le savez, ce mercredi, c'est le lancement des soldes. Aubin Janteur doit déjà être avec nous par téléphone. On va le retrouver d'ici quelques instants. Il patiente derrière son combiné. Et puis, il y a aussi des nouvelles de nos diocèses. Pour le diocèse de Reims et des Ardennes, nous serons avec Christian Devaux, qui est diacre, mais qui est aussi directeur des pèlerinages diocésains. Et puis, pour le diocèse de Châlons, nous serons avec le père Denis Véjus pour faire un bilan de l'année pastorale à l'espace missionnaire de l'Abri. Voilà pour le sommaire à 18h13, Jean-Pierre.
Eh bien, Alexis, vous êtes très, très complet. Vous nous avez rappelé tout le programme de ce soir qui est particulièrement intéressant. Alors, quel est donc votre premier invité ce soir ?
Avec nous par téléphone, on retrouve le patron des magasins Janteur, Aubin Janteur, qui est également président de la CCI des Ardennes. Aubin Janteur, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes avec nous ce mercredi, puisque c'est l'ouverture des soldes d'été. C'est toujours un moment important pour les commerçants, une période attendue. Comment se profilent les soldes de 2023 dans le département des Ardennes et à Charleville-Mézières, plus particulièrement, Aubin Janteur ?
Alors écoutez, pour l'instant, ça se profile normalement. Il est trop tôt, c'est là où nous sommes durant la première journée des soldes. Évidemment, on ne peut pas tirer un bilan. Le seul bilan qu'on puisse tirer, c'est plutôt le point de démarrage. On a eu une saison qui, notamment pour des raisons météo, avait démarré assez timidement, puisqu'il a fait un temps relativement médiocre, en tout cas comparativement aux autres années, jusqu'à mi-mai, fin mai. On a un mois de juin avec une météo très favorable qui occasionne un petit rattrapage. Les soldes restent période importante. On observe au fil des années que l'engouement diminue un petit peu parce qu'il y a un rythme promotionnel important durant le reste de la saison, mais je suis persuadé que ça reste quand même un moment important et un mot qui a encore du sens.
Effectivement, c'est vrai qu'il est trop tôt pour faire un bilan des soldes, de savoir si les acheteurs vont se précipiter dans les magasins, si les consommateurs vont venir au Aubin Janteur. C'est peut-être aussi l'occasion de regarder ce qu'il s'est passé depuis le début de l'année 2023, parce que ça indique certaines tendances aussi avec les difficultés économiques, etc. Pour l'instant, la situation des commerçants dans les Ardennes, comment elle est en ce début d'année ?
Vous avez raison de le souligner, c'est une année un petit peu difficile. Ce qui est un peu particulier pour nous, commerçants, quand on se remet dans le temps, c'est l'enchaînement ou disons l'accumulation des difficultés. On se souvient qu'en 2019, on était au point d'orgue du mouvement des Gilets jaunes. Et ici, par exemple, à Charleville, eh bien, nous avions eu la manifestation nationale des Gilets jaunes avec tout l'ensemble du centre-ville barricadé, un samedi complet de fermeture. Donc c'est une période qui avait été assez difficile à vivre parce que les répercussions économiques étaient fortes. Et évidemment, derrière, on enchaîne deux années de Covid, trois confinements, avec pour nos commerces qui pour l'essentiel étaient considérés comme non essentiels, trois confinements, donc trois fermetures, une année 2022 qui après est un peu une année de libération, qui se passe plutôt correctement. On a la crise ukrainienne qui vient un petit peu freiner les ardeurs, et à cela s'ajoute la crise énergétique, en tout cas l'inflation sur l'énergie et l'inflation tout court, qui ont un peu réduit la propension du consommateur à dépenser de l'argent dans les magasins. Donc on est dans une situation qui est généralement saine, mais avec certaines fragilités, et c'était vraiment cette fréquence, cette récurrence des crises fragilise un peu l'ensemble, et puis on l'observe en fait à Charleville, dans les Ardennes, mais partout en France. On a aussi une mutation de la distribution qui est profonde, il y a beaucoup d'enseignes textiles qui tombent, qui déposent le bilan. Donc on est dans une période un petit peu chahutée, une période à mon avis charnière aussi pour le redessin de nos centres-villes.
Alors justement, cette période charnière, Robin Janteur, on imagine qu'à la fois au titre des patrons des magasins Janteur à Charleville-Mézières, mais aussi en tant que président de la CCI des Ardennes, vous y êtes quand même attentif, vous regardez ce qu'il se passe, et c'est pas forcément évident de définir une conjoncture. Alors comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça ?
En tant que chef d'entreprise, j'ai la chance d'être à la tête d'une entreprise qui est à la fois de la notoriété, de l'ancienneté, donc qui est plutôt saine, et ce qui nous permet de la faire évoluer. Je pense que c'est indispensable de changer, donc on continue à changer. On a aussi une démarche énergétique très forte. Maintenant, je reste très vigilant parce qu'on est quand même sur des secteurs d'activité et sur un territoire qui présente quelques difficultés. Au niveau de la CCI, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des transitions multiples que nous devons opérer en ce moment. Pendant la Covid, on avait beaucoup parlé de la transition numérique, la digitalisation des commerces, etc. La problématique énergétique est énorme pour tout le monde. Et à cela s'ajoute aussi la mutation des consommations. Donc notre rôle, c'est vraiment à la fois d'informer, d'alerter, parce que tout le monde n'est pas forcément conscient, et ensuite d'aider. Parce que de multiples changements comme cela, tout le monde n'est pas forcément armé, on ne sait pas forcément par quel bout prendre la question et vers quoi s'orienter. Donc c'est vraiment une période qui est intéressante, mais qui peut être un peu chahutante pour certains d'entre nous.
Aubin Janteur, pour revenir sur vous et sur cette période de solde, c'est vrai qu'avec les magasins, on en parlait d'ailleurs il y a quelques semaines sur l'antenne de RCF, vous êtes en période de réaménagement, de travaux, etc. C'est toujours un petit peu particulier lorsqu'on est patron d'une enseigne, de savoir finalement qu'on n'est peut-être pas à 100% de nos capacités en termes de propositions, en termes d'espace à disposition pour le moment.
Je pense que ça fait partie de la règle. La réponse à ces questions-là, et c'est les bonnes questions, c'est qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux besoins du consommateur? Donc nous, la décision qu'on a prise, c'est effectivement de transformer, de moderniser, ça c'est quelque chose de récurrent, et surtout d'avoir un travail de fond aussi en termes de valeur. C'est-à-dire que quand on parle de RSE, de transition énergétique, de transformation, il ne s'agit pas de calvauder le message. C'est-à-dire que moi, je suis absolument persuadé que notre rôle, c'est aussi d'être un petit peu pionnier pour montrer qu'on peut faire, même dans un environnement contraint, comme des monuments historiques. Et après, par rapport à l'offre, là, je peux ouvrir à la fin du mois d'août un nouveau magasin de 300 mètres carrés rue Piétonne à Charleville. Il y a un double objectif, c'est évidemment offrir aux Ardennais un écrin, une marque à laquelle ils ont droit. Enfin, c'est une question de repère, on sait que les marques sont quelque chose d'important. Et c'est aussi, je pense que notre rôle, et là il est plus large en fait que le commerce à proprement parler, c'est de savoir comment une entreprise comme la nôtre peut contribuer au développement du territoire. Et donc c'est vraiment une question d'attractivité. C'est un risque, mais si on le fait, c'est aussi parce qu'on est amoureux du territoire.
Vous parlez au Benjanteur de développement du territoire, d'attractivité. Pour votre casquette de président de la CCI des Ardennes, on le sait, au 1er janvier 2024, il y aura la CCI Marne-Ardennes. Là aussi, ça va engendrer des changements en termes de développement et d'attractivité du territoire. Il va falloir penser différemment, il va falloir penser plus grand.
Oui, alors ça va changer et d'un autre côté, ça ne changera pas. C'est-à-dire que l'idée de la création de cette nouvelle CCI, c'est d'avoir un outil qui soit plus fort et plus puissant, mais plus puissant au service des entreprises et du territoire. On va avoir des compétences plus fortes, on va faire revenir aussi, par exemple, sur le territoire des Ardennes, des compétences et un savoir-faire qu'on avait un peu perdu dans le domaine notamment de l'aménagement, des parcs d'activité, d'immobilier. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça nous permet aussi de mutualiser des compétences. On parlait de la transition énergétique. C'est des profils très qualifiés dont on a besoin pour aider les entreprises, et ça on n'en trouve pas partout, tout le temps, il faut pouvoir leur donner un grand terrain de jeu, si je puis dire. Ce qui ne changera pas, ou ce qui va plutôt même se renforcer très clairement, c'est la proximité. Tout en ayant un territoire plus large, au fond ce territoire, il correspond à une réalité, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je pense que pour tout un chacun, quel qu'en soit le motif, Marne et Ardennes sont tout à fait continues, c'est-à-dire qu'on a spontanément un axe nord-sud quand on prend le train, quand on fait ses études, quand on fait ses courses. Enfin, ces deux territoires qui sont très interconnectés, il y a un moment donné, pour les entreprises, c'est encore plus clair, c'est-à-dire qu'on est sur une unité. Donc nous, on a voulu avaliser un peu cette unité. On sera plus en proximité parce que ça nous permet aussi de répartir nos forces différemment, d'avoir des vrais spécialistes. Et on garde évidemment les sites qui existent actuellement, qui sont ceux de Charleville, de Châlons et de Reims.
Et même si le projet est déjà bien lancé et entériné, il y a certainement des réflexions qui sont encore en cours pour agencer tout cela. On aura l'occasion d'en reparler au Benjanteur sur les ondes de RCF. Un grand merci en tout cas d'avoir été fidèle encore une fois tout au long de l'année aux ondes de RCF. Et puis on le dit à chaque fois, mais c'est très important, vous le savez aussi bien pour nos auditeurs que pour nous. Vous êtes également partenaire de la radio, donc c'est avec joie qu'on vous compte parmi nos partenaires et on vous dit à très bientôt, on vous souhaite un bel été au Benjanteur.
C'est très gentil, merci à vous aussi.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et à 18h20 sur les ondes de RCF, tout de suite on part en musique avec un zoom sur le programme des Fenneries musicales de demain, jeudi, avec Jean-Pierre Benoît et son invité.
Claire Tétinger, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Rappelons que vous êtes la présidente des Flâneries musicales, donc c'est inutile de vous présenter. On vous retrouve avec tous les concerts cette année et en ce 29 juin, ce jeudi 29 juin à 20h, quel est le lieu et qu'est-ce qu'on propose comme concert ?
Alors le lieu, c'est à la chapelle Saint-Joseph, du collège Saint-Joseph. C'est un très beau lieu, c'est un endroit où la musique sonne bien. Et surtout, on va avoir un programme extraordinaire, puisqu'on va avoir la musique à la Cité des Rois. Et la Cité des Rois en Amérique du Sud, c'était Lima. Vous savez, quand les Espagnols ont traversé l'Atlantique pour aller conquérir l'Amérique, ils sont allés jusqu'à Lima et ils en ont fait la Cité des Rois. Et avec eux sont venus tout un tas d'hommes éclairés, enfin des musiciens, des peintres, etc. Et donc, ils ont formé sur place de grands musiciens et de grands compositeurs. Et donc, ce soir, vont être jouées des œuvres de deux grands compositeurs qui ont marqué cette époque-là, c'est-à-dire au XVIIe, hein, qui sont Monsieur de Araujo. Je prononce pas. Araujo.
Oui. Et d'ailleurs, voilà. on a interviewé celui qui dirige les traversées baroques, Étienne Meyer,
oui.
Et qui nous en parle. Hein. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir.
Oui.
Vous dites, ça va être joyeux, non ?
Ça va être très joyeux. Ça va être très vivant, très gai, très. Et puis c'est amusant d'écouter la musique de cette époque, parce qu'il y a beaucoup d'anonymes, bien sûr. Mais cet ensemble merveilleux des traversées baroques, dirigé par Étienne Meyer, sont vraiment un ensemble qui a fait des recherches et qui a essayé de mettre en valeur cette musique. Et c'est une grande première et pour moi je trouve ça très intéressant. Et d'autant plus intéressant que la musique des rois, c'est comme pour nous la musique des sacres à Reims. Donc vous voyez, il y a un parallèle à faire.
Absolument. Claire Tétinger, on se donne rendez-vous demain. On rappelle le 29 juin 20h, chapelle Saint-Joseph, musique à la Cité des Rois, musique d'Amérique latine, les traversées baroques sous la direction d'Étienne Meyer. On se retrouve demain.
On se retrouve demain avec bonheur.
À très bientôt.
À bientôt.
Et justement, on aura une nouvelle page musicale, pas demain, mais tout à l'heure, nous, en deuxième partie d'émission, pour présenter ce concert, les Traversées Baroques. Ça sera juste après le journal régional, 18h22.
Le 18-19 sur RCF.
Et Jean-Pierre, je vous laisse reprendre votre souffle quelques instants, puisqu'il y a un nouvel invité à votre micro, le diacre Christian Devaux, également directeur diocésain des pèlerinages pour le diocèse de Reims et des Ardennes.
Christian Devaux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors c'est vrai que le pèlerinage diocésain à Lourdes, on s'en rapproche. Ce pèlerinage est présidé par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Il aura lieu du 16 au 21 août prochain. Alors où en sommes-nous, Christian Devaux, dans les inscriptions ?
Pour le moment, on est en pleine inscription. On a au moins 300 inscriptions de pèlerins aujourd'hui et on a 90 préinscriptions de pèlerins malades qui souhaitent intégrer donc l'hospitalité.
Vous disposez de combien de places dans le TGV ?
Alors dans le TGV, on dispose de 500 places.
Donc, soustraction, il manque en gros 200 personnes pour remplir ce train, donc des valides ou pas. Et puis il manque aussi, je crois, des accompagnants de personnes malades.
Oui, on pourra emmener, disons, 85 pèlerins accompagnés et 85 malades si on est au moins 140 à 150 hospitaliers hospitalières et le compte n'y est pas pour le moment.
Donc ça, c'est deux appels que vous lancez, inscrivez-vous et puis si vous voulez accompagner des malades, c'est le moment de le faire. Mais pour des jeunes couples, il y a quelque chose de nouveau. Ceux qui veulent aller à Lourdes, mais qui ont des enfants.
Oui, alors pour les jeunes couples, cette année, donc il y aura un accueil organisé à l'hospitalité pour les jeunes enfants, mais également un accueil au niveau du pèlerinage pour, disons, les enfants d'âge scolaire.
Parmi les inscriptions, où en est-on de la participation des jeunes ?
Alors des jeunes, nous sommes vraiment très très heureux d'accueillir pour le moment au moins 15 cadets de l'hospitalité, c'est-à-dire des jeunes de 15-17 ans qui vont aider les malades. À côté de cela, il y a des jeunes collégiens, mais pour le moment, ils tardent encore à s'inscrire.
Pour les enfants plus jeunes, vous venez de dire à l'instant que vous avez une structure d'accueil qui est prévue, et ces enfants seront d'ailleurs pris en charge sur un créneau le matin et un l'après-midi. Vous nous aviez parlé, Christian Devaux, d'un accueil cette fois pour les enfants des hospitaliers. Alors, est-ce que cela reste toujours d'actualité ?
Alors, cela reste toujours d'actualité, c'est-à-dire que les jeunes hospitaliers et jeunes parents hospitaliers vont pouvoir, dès le matin, laisser leurs enfants à l'accueil Notre-Dame, où il y aura une structure avec des accompagnateurs qui vont les accueillir. Et ensuite, dans la journée, ils pourront rejoindre le groupe enfants du pèlerinage.
Question technique pour ce qui concerne l'hospitalité. Les pèlerins malades se sont préinscrits, mais ils attendent la réponse de la commission médicale. Avez-vous des informations à ce sujet ?
Oui, alors, cela avance. Deux réunions ont déjà eu pour étudier les dossiers médicaux des gens qui se sont préinscrits. Et ils vont recevoir dans la semaine, début de la semaine prochaine, donc ils vont recevoir donc un courrier leur indiquant si leur dossier a été retenu ou s'ils sont en liste d'attente pour le moment.
Et si le nombre d'hospitaliers augmente, le nombre de pèlerins malades admis pourra bien sûr encore évoluer.
Hein, ah ben ça, on espère, on le souhaite. Hein.
Alors, puisqu'on est sur RCF et qu'on suivra bien entendu ce pèlerinage à partir du 16 août jusqu'au 21 août prochain, et vous avez déjà bien sûr les horaires de départ, d'arrivée. Alors pour le départ, le 16 août ?
16 août, alors départ de Charleville, 8h40. Rethel, 9h22. Reims, 10h32, et nous arriverons cette année à 16h54 normalement à Lourdes, ce qui est vraiment extraordinaire.
Oui, parce que départ à 9h pratiquement de Charleville et arrivé à 17h à Lourdes, c'est quand même pas mal. De bons horaires qui permettra l'installation, vous le dites, des pèlerins accompagnés. Pour le retour, le 21 août, on a encore le temps, mais bon, pendant qu'on y est.
Oui, le retour, alors là aussi, c'est un excellent horaire, départ 10h15 de Lourdes, et puis nous serons à Reims vers 16h40, Rethel 18h, et puis Charleville 18h30.
Voilà. Alors, peut-on encore s'inscrire? Évidemment, je connais un peu la réponse.
Oui, il y a encore de la place. Alors, certains hôtels sont complets pour le moment, donc n'hésitez pas à nous téléphoner au bureau des pèlerinages pour que on vous donne les disponibilités d'hôtels.
Alors, mais vous... Comment fait-on pour s'inscrire? Où s'adresser en ce moment? S'il y a des personnes qui veulent aller à Lourdes, ils ont encore le temps. Que doivent-elles faire?
Vous pouvez, dans certains espaces missionnaires, contacter votre référent. Alors, il y a Patrick Cognard, il y a Alain Buridan, il y a des personnes qui sont bien ciblées. Sinon, vous nous appelez au numéro de téléphone des pèlerinages.
À Reims, à la maison Saint-Sixte. Alors, le numéro de téléphone des pèlerinages, on a quand même envie de vous le demander, Christian Debout.
Oui, alors, actuellement, le mieux, c'est de nous appeler sur notre portable, le 06 74 56 31 32.
06, ça c'est facile. 74, on peut retenir. 56, et ensuite 31 32.
31 32.
La pastorale des jeunes. Alors, avec Sylvie Lahaute, qu'on connaît bien, c'est le 06 79 42 66 37. 06 79 42 66 37. Et bien entendu, on peut se rendre sur le site du diocèse www.catholique-reims.fr et bien sûr, on aura tous les renseignements. Concrètement, si on veut se trouver en présentiel, comme on dit, avec quelqu'un, on peut se rendre à la maison Saint-Sixte le mardi.
Oui, nous sommes là le mardi de 14h à 18h, nous sommes présents à la maison Saint-Sixte.
Mardi, 14h30, 18h, ça sera donc vrai pour mardi prochain, nous serons le 4 juillet. À Charleville-Mézières, à la maison Bierry, c'est un autre horaire si on veut se voir en présentiel.
C'est le jeudi.
15h-17h, donc c'est demain, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Demain, jeudi, le 29 juin. Et puis, on attendra les résultats. Il faut absolument que vous reveniez la semaine prochaine, hein, Christian Devaux, pour qu'on en reparle. Alors, un petit peu en conclusion, revenir un petit peu sur le thème du pèlerinage peut-être.
Oui, alors, là on était sur le matériel, mais quand même on va faire une démarche spirituelle importante. Et Marie a confié à Bernadette ce message que l'on baptise ici une chapelle. Ce message, il s'adresse vraiment à chacun d'entre nous. Et nous souhaitons, pour ce pèlerinage, construire une belle chapelle. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de pierres. Donc, beaucoup de pierres. Alors, vous tous et toutes, vous êtes des pierres vivantes. Et c'est avec vous que nous allons pouvoir construire cette chapelle. Et nous avons une belle pierre qui est arrivée hier, hein, puisque le Saint-Père hier nous a donné une pierre de fondation, le Père Étienne Veto, comme nouvel auxiliaire de notre diocèse. Donc nous pouvons tous aller à Lourdes pour rendre grâce pour ce don qui nous est donné à notre église diocésaine.
Le Père Étienne Veto qui était en direct avec nous de Jérusalem sur RCF. On a l'occasion de le retrouver. Il ne pourra pas participer, il l'a dit, au JMJ. Je ne sais pas trop sur le pèlerinage de Lourdes s'il sera disponible. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, il y aura Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui lui préside ce pèlerinage.
Oui, oui.
Alors Christian Devaux, on n'a plus qu'à attendre et puis surtout à espérer que les inscriptions arrivent.
Oui, je viens de passer au bureau ce matin. Comme disaient mes enfants, ça fusine, ça travaille. C'est bien.
Eh bien, ça c'est une bonne nouvelle. Merci Christian Devaux. Rappelons que vous êtes diacre et responsable diocésain du pèlerinage de Lourdes. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très bonne journée avec RCF.
Merci Jean-Pierre.
À bientôt.
À bientôt.
Et le pèlerinage de Lourdes, vous le savez, c'est du 16 au 21 août. On parlera aussi de ce pèlerinage avec Anne Kerr, qui est présidente de l'hospitalité. Mais en attendant, c'est l'heure du direct, il est 18h30, c'est l'heure de retrouver Alexis Claudretz pour le journal régional. Bonsoir Alexis.
Avec les titres de ce mercredi 28 juin, zoom sur la 17e édition du Cabaret Vert qui se dévoile progressivement après les artistes il y a quelques semaines. Maintenant, c'est l'organisation générale qui a été présentée récemment. Franck Leroy, président de la région Grand Est, s'est récemment rendu au lycée François 1er de Vitry-le-François. Retour sur cette visite.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce mercredi 28 juin marque le début des soldes d'été. Elles se poursuivront jusqu'au 25 juillet dans tous les départements de l'ex-Champagne-Ardenne. Luca Mastroino, notre stagiaire à la rédaction, est là. Il est moderne, il est jeune, il s'habille bien. Luca, est-ce que la période des soldes, c'est le moment où vous refaites vos placards?
Ah bah surtout en été, parce qu'il y a les vacances qui arrivent bientôt et il faut refaire un peu la garde-robe de l'été, et pour les étudiants comme moi qui ont des petits revenus, c'est toujours intéressant de chercher la bonne affaire.
Il est jeune, il est moderne, Jean-Pierre Benoît également. Jean-Pierre, vous en profitez également pour refaire vos placards?
Je suis moins jeune, mais je suis toujours moderne, et c'est vrai que c'est une période dont il faut profiter.
Effectivement, eh bien, vous aurez certainement l'occasion d'en profiter, peut-être dans les rues commerçantes de Reims ou à Charleville-Mézières, comme on en parlait tout à l'heure, avec Aubagenteur au début de cette émission. Un festival de musique se termine dans la Marne avec le clap de fin sur la Magnifique Society. Un autre se prépare dans les Ardennes avec le Cabaret Vert qui revient au mois d'août 2023. Luca Mastrolillo, stagiaire à la rédaction, qui fait son comeback cette semaine. Vous avez envie de nous présenter une nouvelle édition plein de surprises.
L'avant-première du Cabaret Vert de jeudi dernier avait pour but de dévoiler les nouveautés que l'on pourra retrouver sur le festival. Eh bien, il en a sûrement fait saliver plus d'un. Une nouvelle scène, un estaminet, le salon de la BD qui déménage, autant de changements que d'artistes présents sur scène. Ils seront pas moins de 140 à faire le déplacement entre le 16 et le 20 août. Julien Sauvage a eu l'occasion de revenir sur ces nouveautés.
Ouais, nouveautés en termes d'aménagement, déjà l'arrivée de l'estaminet qui va donner un peu sur le fond du site l'espace un peu multiculturel où on y retrouve la BD, l'art de rue, le cinéma, le sing-song, etc. Donner un peu plus de cohérence à l'ensemble, moins avoir des espaces qui soient les uns à côté des autres et meilleure cohabitation, un lieu un peu convivial. On veut essayer de travailler, alors c'est peut-être nos âges qui font donc maintenant on est tous un peu parents, avoir une zone de festival un peu plus familiale. On va améliorer les accès au green floor. L'année dernière ça a été une belle réussite, mais pour le coup je pense qu'on a besoin d'oxygéner un peu ce passage sur la Meuse, donc en doublant le pont, des petites nouveautés en termes de déco et puis des réorientations de scène assez importantes. L'idée étant de commencer un petit peu à effleurer ce que sera le Cabaret Vert en 2024 et même pour nous amener des réponses sur les certaines cohabitations, nuisances sonores entre scènes, etc.
Le festival est devenu protéiforme au fil des années, même si la musique attire la majorité, les visiteurs viennent aussi pour les autres attractions du festival, comme le salon de la BD ou l'estaminet. Julien Sauvage explique que cette polyvalence est à l'image de l'équipe organisatrice.
On est un festival qui revendique le local, on est un festival qui revendique le développement durable, on est un festival de musique, on est un festival de BD, on y fait du cinéma, on a un espace pour les familles. Le projet est hyper complexe, on l'a créé comme on en a eu envie, on n'a pas créé un objet, on n'a pas cherché quelque chose de marketing, on a essayé d'avoir avoir plein de fourmillements. On a pensé le festival pour nous. Pourquoi il y a de la BD? Parce que j'adore la BD. Pourquoi il y a d'autres choses que la musique? Parce que beaucoup autour de la table n'étaient pas forcément que des icos. Et même sur la musique, on a de la découverte, des artistes régionaux, on a du rock, on a du rap, on a de l'électro, on a du reggae.
Malgré les changements et les évolutions, le Cabaret Vert a toujours comme objectif de garder son ancrage territorial, même si l'équilibre est difficile à trouver avec la volonté de se faire connaître hors des frontières.
Je crois qu'il y a plein de réussites dans le festival, mais la plus grosse et la première raison peut-être même de sa réussite, c'est l'ancrage territorial. Des fois, je dis en rigolant, bon ben voilà, maintenant le festival il appartient aux Ardennais et on nous donne le droit de l'organiser. Mais presque, il nous appartient plus aujourd'hui. Dans un sens, c'est frustrant. Tu vois les commentaires cette année avec une programmation qui est quand même moins populaire, plus internationale, parce qu'on veut aller vers ce côté poser Charleville sur la carte de l'Europe, arriver à faire comprendre aux gens où on veut aller. Et c'est pas toujours simple. C'est devenu populaire, donc on est quand même relativement chahuté.
Merci Luca Mastrolillo. On va faire quelques kilomètres, on va passer de Charleville-Mézières à Sedan où l'entrée de la ville est en pleine transformation. Sur la friche de l'ex-collège Frénois détruit il y a 10 ans, le site va accueillir plusieurs enseignes, un B&B hôtel, un KFC, Monsieur Bricolage et un buffet asiatique. Un dossier ouvert en page 18 chez nos confrères de l'Ardennais ce jour. Et c'est à Sedan encore que ça se passe avec le château fort de la ville qui est en finale nationale du monument préféré des Français. Il sera en compétition avec 13 autres sites ou édifices, une indiscrétion rendue public par le maire Didier Herbillon lors du dernier conseil municipal en début de semaine. France 3 officialisera la nouvelle vendredi. Dans le diocèse de Reims et des Ardennes, on a appris lundi la nomination de Mgr Étienne Véteux comme évêque auxiliaire. Jean-Pierre, avant d'avoir quelques réactions autour de ce sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelque sorte le profil de Mgr Étienne Véteux?
Étienne Véteux s'est présenté lui-même en direct depuis Jérusalem comme prêtre de la communauté du Chemin Neuf. Il a un parcours, j'allais dire, sur le plan des études assez, exceptionnelles, puisqu'il a fait l'école normale supérieure, il est agrégé de philosophie, il est docteur en théologie du Centre Sèvres de Paris, et puis il a beaucoup enseigné et il était affecté tout récemment à Rome au Centre biblique BA, qui est un centre où il y a 120 nationalités représentées parmi les étudiants, et avec aussi une connotation importante du monde juif. Il faut savoir que le père de Mgr Étienne Véteux était d'origine juive, qui s'était converti au catholicisme avant de rejoindre les États-Unis, et c'est là que Mgr Véteux est né il y a 58 ans.
Merci Jean-Pierre Benoît pour cette présentation. Les élus réagissent à cette nomination, notamment le maire de Reims, Arnaud Robinet.
Ah ben moi j'ai salué, en tout cas j'ai souhaité la bienvenue à Monseigneur. Voilà, il va donc succéder à Monseigneur Fayet. En tout cas, je serai bien évidemment présent. C'est le samedi 9 septembre à 17h30 dans la cathédrale Notre-Dame de Reims. Et je lui souhaite la bienvenue et hâte de le rencontrer pour pouvoir échanger avec lui.
Des propos recueillis par Luca Mastrolillo. C'était à l'occasion d'un autre sujet. Vous lui avez posé cette question en aparté au maire de la ville de Reims, Arnaud Robinet, qui est bien renseigné, puisque effectivement l'ordination épiscopale, Jean-Pierre, c'est le samedi 9 septembre, 17h30, en la cathédrale de Reims. On peut déjà cocher cette case dans l'agenda.
Elle sera bien sûr retransmise sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes.
Et si vous n'aviez pas pu suivre l'émission de lundi, encore une fois, rendez-vous sur le site rcf.fr, rubrique réécoute. Il y a un entretien exceptionnel, notamment les 20 premières minutes du magazine régional, avec Mgr Étienne Véteux, qui était en direct depuis Jérusalem, et Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui était ici avec nous en plateau, et les deux qui pouvaient échanger et interchanger, même s'ils le font évidemment aussi hors antenne. On continue ce journal à 18h38 avec un flashback sur vendredi dernier. Au cours de l'après-midi, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, a visité le lycée François 1er de Vitry-le-François et rencontré les maires du pays Vitria, accompagnés par les conseillers régionaux du secteur, Thibaut Duchesne et Jackie Desbrosses. Le projet de rénovation du gymnase Pierre de Coubertin du lycée François 1er a notamment été présenté. Franck Leroy au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet.
En général, je vais visiter les lycées partout où je me déplace, en fonction des possibilités aussi des proviseurs. Mais là, j'avais prévu de passer à Vitry pour visiter ce lycée, notamment parce qu'on a prévu d'investir pas mal de travaux, environ 7,5 millions. Travaux de modernisation du lycée, de modernisation du gymnase, d'installation de toitures solaires, parce que dans le cadre du plan Solarest, c'est 450 millions d'euros qu'on engage sur nos lycées, à la fois pour les isoler mieux et en même temps pour leur permettre de produire de l'énergie. Travaux sur les toitures, enfin bref, toute une série de choses assez classiques. Mais c'est également l'occasion de discuter avec les proviseurs et l'équipe de direction des difficultés rencontrées, des perspectives en termes de formation, d'adéquation entre les besoins du bassin et les possibilités offertes par l'établissement. Donc c'est toujours très enrichissant.
Et bientôt la réunion avec les maires.
Ensuite on enchaîne avec une réunion avec les maires. Alors, c'est quelque chose qui m'est plus familier, d'abord parce que je m'occupais d'aménagement du territoire autrefois et je suis encore président des maires de la Marne, donc je vais rencontrer des collègues maires que j'apprécie. Et là l'idée c'est d'évoquer un peu les projets que porte la région, les attentes des élus par rapport rapport à la région, les problèmes d'aménagement du territoire, de développement économique, enregistrer la satisfaction des uns et des autres sur le déploiement de la fibre, puisqu'on est aujourd'hui la seule région de France à offrir la fibre dans tous les villages sans exception, montrer à ses élus tout le potentiel qu'il y a à la fibre à travers les usages. Enfin bref, il y a pas mal de chantiers en cours, et puis c'est une relation qui est toujours très intéressante parce qu'elle est très directe avec les maires. Quand il y a des mécontentements, ils le font savoir. Quand ils sont contents, ils le font savoir aussi.
La journée s'est terminée par une rencontre avec les maires du Vitria pour présenter les aides que la région Grand Est peut apporter aux communes. Toujours en attente de son passage en appel devant la DNCG, le gendarme financier du football, le 4 juillet prochain, le club sportif Sedan Ardennes connaît des heures difficiles, alors qu'en cette période d'incertitude, plusieurs joueurs quittent le club. Hier, c'est le directeur sportif Julien Fernandez qui, après 7 ans passés au CSSA, a fait le choix de s'engager avec Fréjus en National 2. La grogne monte du côté des supporters, notamment le groupe Young Boys a fait un communiqué via les réseaux sociaux il y a quelques minutes, et ils expriment notamment leur colère et posent plusieurs question au président du club, Marc Dubois. Avant de refermer ce journal, on regarde du côté du ciel avec un nouveau stagiaire à la rédaction. Cette semaine, il s'agit de Raphaël. Et avec cette question que l'on pose à tous nos stagiaires lorsqu'ils présentent la météo, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce jeudi, Raphaël ?
Ce jeudi 29 juin, les températures de la matinée seront agréables avec des minimales de 19 degrés à Charleville-Mézières et Vitry-le-Croisé, et 20 degrés à Épernay. Néanmoins, le ciel sera très nuageux au-dessus des Ardennes et de la Marne. L'Aube et la Haute-Marne, quant à elles, profiteront de belles éclaircies. Le temps va se dégrader tout au long de la journée avec des pluies éparses sur les Ardennes et des rares averses sur la Marne et l'Aube. Seule la Haute-Marne sera épargnée avec des éclaircies tout au long de cet après-midi. Les températures de l'après-midi resteront quant à elles assez chaudes avec 25 degrés à Châlons-en-Champagne et Chaumont et 26 degrés à Troyes. Les températures de la soirée seront redescendues avec des minimales de 20 degrés à Reims et Rethel et 22 degrés à Langres et Nogent-sur-Seine. Nous aurons le droit à un mauvais temps lors de cette soirée avec des risques d'orage au-dessus de la Marne et de l'ouest de l'Aube. Les Ardennes seront sous la pluie tandis que l'est de l'Aube et la Haute-Marne pourront profiter d'éclaircies. Demain, ce sera la Saint-Paul et Pierre, donc bonne fête d'avance à tous les pôles et Pierre.
Merci Raphaël, on vous retrouvera jeudi et vendredi pour les tendances météo. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
18h42 dans le magazine régional. Tout à l'heure, Jean-Pierre, vous étiez avec Claire Tétinger, la présidente des Flâneries Musicales. Vous nous faisiez un panorama du programme de ce jeudi. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas en parler davantage avec un nouvel invité en ligne avec vous et avec nous.
Bonjour, avec nous aujourd'hui, on évoque les Flâneries Musicales et les traversées baroques avec son directeur, Étienne Meyer. Étienne Meyer, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, votre concert avec l'ensemble Les Traversées Baroques se produit à la chapelle Saint-Joseph, jeudi 29 juin à 20h. Alors, quel est le programme que vous allez proposer ce jour-là ?
Alors, nous proposons un programme à la Cité des Rois. Alors, rien que de plus normal à Reims, mais en fait, nous emmenons plutôt en Amérique latine, puisque la Cité des Rois est basée à Lima, donc au Pérou, pour ces musiques anciennes du XVIIe siècle, du baroque latino-américain.
Alors évidemment, on imagine que vous connaissez bien ces auteurs d'Amérique latine. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelque sorte envie, un petit programme ? Peut-être que certains musiciens, en tout cas de mélomanes, peuvent comprendre un peu mieux ce que vous allez proposer ?
Oui, alors en fait, nous allons nous plonger au XVIIe siècle sur cette musique péruvienne. Alors, il y a des compositeurs qu'on ne connaît pas forcément, mais il faut savoir que justement, cette musique est vraiment une filiation nette avec la musique espagnole de la même époque. Alors, certains musiciens ou mélomanes connaissent certains compositeurs comme Victoria ou Guerrero, qui étaient donc vraiment espagnols, qui ne sont d'ailleurs jamais allés en Amérique latine. Mais beaucoup de compositeurs, beaucoup d'espagnols sont musiciens, arrivés et se sont installés en Amérique latine avec ses partitions et avec leur savoir-faire. Et puis voilà, ils ont développé un langage qui transparaît, enfin qui a été développé notamment à Lima, capitale, on va dire, de l'époque, donc la cité des rois, puisque d'après l'histoire, cette cité a été on va dire, officiellement baptisé le jour des rois, le 6 janvier.
Voilà. Alors, il faut dire, Étienne Meyer, que c'est pas votre spécificité dans les productions, dans ce que vous allez faire par ailleurs, puisque vous êtes de Dijon, dans les concerts, vous ne faites pas que de la musique d'Amérique latine, on imagine.
Non, pas du tout. C'est vrai que les traversées baroques explore divers horizons. On a beaucoup travaillé sur les musiques anciennes d'Europe de l'Est, par exemple. Notre cœur de métier, on va dire, c'est la musique aussi italienne, 16e, 17e siècle. On s'aventure aussi de temps en temps sur des créations contemporaines, notamment liées au ciné-concert, donc quelque chose de, mais sur instruments anciens. Voilà, on a plusieurs, on va dire, esthétique à notre catalogue, si j'ose dire.
Alors on s'aperçoit, même si on n'est pas spécialiste, que parmi les titres, il y a des Magnificat, des Salve Regina. Est-ce qu'on peut dire que dans le programme que vous proposez, il y a une musique d'une sensibilité religieuse ?
Alors, il y a effectivement la musique sacrée, parce que tous les compositeurs de cette époque-là étaient liés plus ou moins, plutôt plus que moi d'ailleurs, à des églises, et notamment à la cathédrale de Lima, dont un des compositeurs principaux, Juan de Araujo, donc qui, dans leur mission, on va dire, de musicien d'église, avait aussi à écrire la musique pour la liturgie, tout simplement. Mais c'est justement le mélange des genres, et c'est le propre de cette musique latino-américaine, fait que la musique populaire y est très présente, notamment avec un genre très spécifique de l'Espagne de l'époque, qui est ce qu'on appelle le villancico, qui est un mélange de musique populaire mais sur des thèmes plutôt de Noël, mais en langue vernaculaire, donc là en espagnol, où ce sont des petites scénettes, des petites histoires autour de la Vierge Marie, ou enfin en tout cas sur autour de Noël. Et ces mêmes compositeurs, voilà, écrivent des choses très populaires, très festives, très dansante. D'ailleurs, on aura des percussions qui vont, on va dire, qui accompagnent en tout cas cette musique-là.
Est-ce qu'on peut dire, pour des personnes qui ne connaîtraient pas, que c'est intéressant de venir parce qu'à la fois, il y a la musique baroque, mais aussi cette musique, j'allais dire, dynamique, gaie, qui donne envie de danser, de l'Amérique latine. C'est quand même spécifique, particulier, cette musique d'Amérique latine.
Ah bah complètement, hein. On a un syncrétisme entre, on va dire, ce qu'on peut imaginer comme étant austère dans certains langages, musique de la Renaissance en Europe, que ce soit en Italie ou en Espagne, sur des motets ou des messes vocales, et là avec justement ce mélange populaire qui est très festif, et voilà, il y a des petites histoires même humoristiques, il y a des berceuses, il y a ce mélange des genres qui rend cette musique extrêmement vivante. Et on mélange, nous, avec l'ensemble, les voix chantées, les instruments qui seront nombreux, avec des vents, des cordes et des instruments comme les orgues.
Pour terminer, Étienne Meyer, on veut en savoir un petit peu plus sur vous. Dans les traversées baroques, vous produisez autour de Dijon, en Côte d'Or, dans la région Bourgogne.
Alors, nous sommes, c'est un ensemble qui est basé à Dijon, donc on travaille effectivement en étroite relation avec là où nous sommes, hein, que ce soit la ville de Dijon, la région, le département. On a de nombreux partenariats, et puis on a la chance aussi de pouvoir, quand on nous le demande, de pouvoir aller aussi ailleurs dans des festivals partout en France ou à l'étranger pour certaines occasions.
Comme par exemple à Reims, le jeudi 29 juin à 20h, à la chapelle Saint-Joseph, avec la musique à la Cité des Rois, Lima, les traversées baroques sous la direction d'Étienne Meyer. Merci Étienne Meyer d'avoir été avec nous, et on invite les auditrices et les auditeurs de se précipiter le 29 juin à 20h à la chapelle Saint-Joseph dans le cadre des Flâneries musicales d'été. Merci Étienne Meyer, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Jean-Pierre Benoît, et au revoir.
Vous l'avez compris, il y a de chouettes rendez-vous à venir avec les Flâneries demain. N'hésitez pas à vous y rendre si vous en avez la possibilité.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h48, alors que la saison 2022-2023 s'achève progressivement, la saison radiophonique, on entend évidemment, RCF vous propose ce soir de faire un bilan de la saison pastorale également, qui s'achève elle aussi dans l'espace missionnaire de la Brie, dans le diocèse de Chalon, avec son doyen, le père Denis Véju, au micro RCF de Christian Lanciot.
Bonjour à toutes et à tous. Denis, bonjour.
Bonjour à toi Christian, bonjour à tous les auditeurs d'RCF. Je suis très heureux de dire un petit mot sur l'année écoulée, qui est vraiment une source de joie pour moi. D'abord, l'équipe des prêtres. Voilà, on a eu la chance, vraiment, hein, la joie de travailler trois prêtres en responsabilité, avec le père Jacques Badji, qui est venu nous rejoindre au mois de septembre et qui nous a apporté son dynamisme, son zèle missionnaire. Vraiment un vrai renouveau, déjà, entre nous. Alors, ça a pu servir aussi une belle vie de prière, des temps de partage, et puis très fraternel autour des repas partagés, pratiquement tous les midis. Et puis des temps de sortie, par exemple, entre nous, de détente. Enfin, vraiment un très beau moment qui, j'espère, on rejaillit sur notre manière de vivre la pastorale sur les différentes paroisses de l'espace missionnaire.
Et puis avec le père Pascal, vous avez une belle équipe et vous avez aussi une belle équipe de prêtres qu'on appelle en retraite active.
Absolument, une équipe qui va d'ailleurs encore se renforcer avec la venue de Joël Morlaix qui va s'installer en retraite comme prêtre auxiliaire sur Fère Champenoise. Eh bien oui, cette équipe, elle est nécessaire, hein, parce qu'ils donnent de grands coups de main. En dépit de leur âge, évidemment, ils sont encore pleins de dynamisme les uns et les autres.
Je peux dire que c'est une équipe magnifique. J'ose ce qualificatif.
C'est une belle équipe, effectivement. Et on avait vraiment vécu de très beaux moments ensemble tout au cours de cette année. On ne peut que souhaiter que de telles équipes puissent se mettre en place, se développer sur l'ensemble des espaces missionnaires, parce que c'est très précieux, voilà, pour la pastorale et tout ce qu'on peut vivre ensemble, aussi avec les équipes de laïcs. Je me réjouis aussi que ces équipes de laïcs aient pu se déployer et pu se développer, des équipes de conduite qui ont pu se mettre en place, d'autres qui sont encore en cours de constitution, mais j'ai le sentiment, je vis ça comme ça, en tout cas, d'un vrai renouveau de l'engagement des uns et des autres, en particulier de personnes un peu plus jeunes, sur notre espace missionnaire.
On peut dire quand même que c'est dynamique, comme vous dites, mais c'est aussi grâce maintenant à des laïcs qui s'investissent un peu plus.
Absolument. Rien ne peut se faire sans eux, et de plus en plus. Et on prend conscience, d'ailleurs, aujourd'hui, encore un peu plus, que si la messe, c'est important, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est pas le tout de la vie chrétienne. Et il faut que les gens, ils prennent de plus en plus l'habitude, les chrétiens, de se rassembler. Alors il y a des équipes qui existent déjà, équipe du rosaire, équipe diaconia, il y a des équipes d'études de la Bible, enfin il y a déjà pas mal de choses. Il y a aussi des petites fraternités qui se mettent en place. Et je crois que c'est vraiment l'avenir de notre église, surtout dans le monde rural. On peut pas couvrir le territoire, enfin les 123 villages, les distances extraordinaires avec des prêtres qui se rassemblent plutôt sur un lieu. Il faut que les chrétiens prennent l'habitude, et c'est nécessaire, et puis c'est source de vitalité pour les uns et les autres.
Et ce bilan de l'implication des laïcs à travers les différents groupes, il s'est manifesté dimanche dernier à Cézanne.
C'est tout à fait vrai. Alors à Cézanne, avec une messe d'action de grâce où, on va dire, la plupart des équipes, pas toutes, la plupart des équipes ont pu exprimer une intention d'action de grâce. Je sais aussi qu'il y a eu une rencontre, une messe d'action de grâce à Fère Champenoise. Enfin, il y en a plusieurs manifestées comme un sentiment de renouveau, de nouveau dynamisme, essentiellement appuyées sur l'implication des baptisés, quoi.
On peut, alors voilà, je vais vous demander si vous deviez résumer les points forts de l'année pastorale.
Alors, d'abord un renouveau en ce qui concerne la demande des sacrements, par exemple les baptêmes, les mariages, un progrès assez considérable. Bon, on vient du Covid évidemment, donc on a un regard un petit peu faussé à travers cette réalité qui nous a quand même bien impacté. Mais un vrai renouveau, un nouveau dynamisme avec cette recrudescence de la demande de baptême et de mariage, tout spécialement. Il y a la constitution donc des équipes, ça c'est très important vraiment, hein, des équipes de laïcs. Il y a cette équipe de prêtres, on porte davantage ensemble l'ensemble de l'espace missionnaire, pas seulement les paroisses séparément, hein, donc plus porter sur l'espace missionnaire, une pastorale commune qui est renforcée par la création d'un conseil d'espace missionnaire où, avec un représentant de chaque paroisse autour de l'équipe des prêtres. Et ça nous aide justement à imaginer pour chaque paroisse, mais aussi en commun, des projets qui ne soient pas démesurés, mais des projets missionnaires qui soient à notre mesure. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très précieux. On a aussi, il faut le dire, on a aussi profité de la présence de Jean Florin, le séminariste, qui a participé à la dynamique de tous ces projets qui se sont mis en place, et puis qui a été aussi très présent sur l'école Saint-Denis. Voilà. Donc, on a vraiment profité de sa présence également.
Malheureusement, on va le perdre là maintenant, puisqu'il était là pour un an.
Alors, il était, c'était son année, une année de césure, donc pour lui permettre de mieux découvrir la réalité du ministère presbytéral et de la pastorale en milieu rural. Hein, on est vraiment dans la ruralité, ici, là, sur l'espace missionnaire de l'Abri. Et donc, il a été avec nous pendant 7 années. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus du tout avec nous, en fait, mais bon, une année complète, là, c'est évidemment une chance. Il va continuer le séminaire, hein, son parcours au séminaire. Il reviendra sans doute de temps en temps pour des temps de vacances, pour une insertion pastorale chez nous.
Et il a organisé des soirées pizza pendant la Coupe du Monde de football.
Oui, c'est ça. Il y a eu plein de petites initiatives, un peu sans prétention, mais qui permettent justement d'être davantage ouvert, davantage une porte ouverte sur ce qui se passait dans la cité, etc.
Alors, il va partir, mais il n'y a pas que lui qui va partir. Et donc, vous allez faire une fête de départ.
Alors, oui, alors c'est un rassemblement, en fait, qui est prévu pour l'espace missionnaire le 8 juillet, samedi 8 juillet, de 14h à 21h, avec différents temps prévus dans la journée, un petit peu pour tous les âges, un temps de louange au départ, la messe d'action de grâce, où on dira tout spécialement merci au père Jacques Badji, qui nous quitte donc. Et puis un temps de partage convivial après la messe, voilà. Hein. Mais ce qui est important pour nous, intéressant, c'est qu'à travers cette messe d'action de grâce, il y a un déploiement qui se fait et qui invite, autant pour la préparation, pour l'animation, qui invite l'ensemble des forces vives et des personnes disponibles de l'espace missionnaire, pas seulement une paroisse porteuse, non, l'espace missionnaire. C'est ce qu'on a essayé de vivre davantage cette année, et ça le manifeste autour de cette demi-journée d'action de grâce.
Donc le rendez-vous, c'est donc le 8 juillet, alors à quelle heure et où?
Alors, à 14h, pour l'accueil et puis un temps de louange au presbytère de Cézanne, ensuite différentes activités, en particulier une visite un peu spirituelle de la ville de Cézanne, un temps d'échange avec une dimension un peu plus politique, je crois que c'est autour de Daniel Béra, la question des migrants, voilà, qui sera abordée. Et puis il y a différentes activités aussi avec les enfants, les jeunes, voilà.
Et ensuite il y a la messe.
Après, donc il y a un temps de goûter comme ça vers 16h30 qui devrait rassembler la plupart des personnes. Et puis il y a surtout la messe à 18h30, avec une tonalité festive et vraiment d'action de grâce, pour se dire merci à Jacques, mais pas seulement, voilà.
Je suppose que vous lui offrez un petit cadeau.
Alors, oui, évidemment, qui garde le meilleur souvenir de son passage chez nous, et puis c'est surtout les contacts humains, quoi, qui ont été tissés, et puis qui ne s'arrêteront pas à ce qui a été vécu pendant cette année.
Bien, Denis, merci, très bon bilan, je crois que vous êtes content, vous avez le sourire, et donc c'est gage d'espoir pour l'avenir, et donc bonnes vacances à tous et à toutes.
Eh bien, bonnes vacances, bel été, que ce soit un temps de ressourcement pour les uns et les autres, et puis un temps pour dire merci, voilà, au Seigneur, pour se dire merci les uns les autres, pour commencer la nouvelle année pastorale dans 2 mois, dans ce climat d'action de grâce.
Merci Père Denis Véju, Christian Lanciot qui était ensemble depuis Cézade. À noter que le diocèse de Châlons organise demain jeudi à 18h30 à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons en Champagne une célébration d'action de grâce, l'occasion de remercier et rendre grâce pour les prêtres et laïcs en fin de mission, pour les communautés éducatives de l'enseignement catholique ayant proposé des journées missionnaires. Elle sera célébrée par l'évêque de Châlons, Monseigneur François Touvet. Ainsi se referme ce magazine régional. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde ce soir. Merci Luca d'être resté avec nous.
Merci Alexis, bonne soirée.
On vous retrouve demain pour un nouveau magazine à partir de 18h10. Dans quelques instants, c'est le réseau national de RCF qui prend le relais avec le journal. Et puis avec joie, nous on se retrouve demain. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes.